Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 13 juin 2022. S'il y a une chose qu'on peut reconnaître au marché, c'est qu'il comprend vite. Il faut juste lui expliquer longtemps. Une chose est certaine, c'est que depuis vendredi dernier, il a bien compris que l'inflation n'avait pas encore fait son pic, bien compris que la hausse des taux restantes n'a pas encore suffi pour freiner la dite inflation, et bien compris que l'on est quand même en train de se retrouver dans une situation à risque de récession ou pire, à risque de stagflation. Le seul problème, c'est que si la fin de la semaine était pourrie à cause de cette 343e prise de conscience inflationniste, le début de celle qui commence promet d'être sympa aussi. Alors oui, c'est vrai, Madame Yellen pense qu'il n'y aura pas de récession parce que le consommateur, il est trop fort et trop solide. Par contre, elle pense que les prix de l'essence ne sont pas prêts de baisser, mais que malgré le pétrole qui monte gentiment, mais sûrement, malgré les problèmes du prix de la bouffe qui prend l'ascenseur, la secrétaire du Trésor est sereine. Il est vrai que jusque-là, elle a tellement été juste sur sa vision de l'inflation qu'il n'y a vraiment pas de quoi se poser des questions. Et puis on dit, le prix de l'essence à la pompe, il fait mal et ça va durer, mais si l'on regarde simplement le prix de la bouffe, je ne suis pas certain que ça va aller beaucoup mieux. Si l'on prend par exemple un carton de 12 œufs qui valait 1,62$ en mai 2021, eh bien ce même carton vaut aujourd'hui 2,86$. Et l'excuse de dire que vous ne mangez pas d'œufs ne fonctionne pas puisque ça se contamine à peu près sur tout. À peu près sur tous les types de nourriture dans tous les coins de la planète. On est même en train de lire un peu partout que Poutine a même mis en place un plan pour affamer le Moyen-Orient et l'Asie pour une extension ou provoquer des manifestations et de l'immigration pour déstabiliser l'Occident. Mais avant de parler de complot et stratégie militaire, on va se dire que Yellen sait ce qu'elle fait et sait ce qu'elle dit, même si les chiffres du CPI de vendredi ont donc laissé de grosses cicatrices dans le marché. On ne va donc pas se poser trop de questions. Depuis jeudi dernier, nous sommes en mode « Oh my God, oh my God, ils vont monter les taux » et aussi en mode « oh my God, l'inflation est hors de contrôle ». Il ne faut pas chercher trop loin, les marchés ne fonctionnent plus que par ça et ne réagissent plus que sur ce type de nouvelles. Et pour en rajouter une couche, la semaine qui nous attend ne sera pas différente. Mais vendredi, nous avons eu les chiffres de l'inflation, ce qui était censé nous démontrer que les mesures prises par la Fed avaient porté leurs fruits. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Le mois de mai aura vu donc un nouveau plus haut depuis 40 ans pour le chiffre de l'inflation sur 12 mois. Nous sommes donc passés de 8,6% contre un précédent record en mars à 8,5%. Alors soit, ça n'est pas non plus 4% en dessus, mais comme les économistes, les analystes et autres visionnaires en finance mondiale avaient des attentes bien plus raisonnables que ça, laissons supposer qu'ils étaient tous d'accord pour dire que les choses allaient mieux et que l'inflation avait peut-être vu son top. Sauf que là, tout d'un coup, on n'est plus aussi convaincu que ça. Sans compter que depuis le début du mois de juin, le pétrole a pris l'ascenseur encore un peu plus, que ce week-end on bat des records du prix de l'essence à la pompe, et ça ne laisse rien augurer de bon pour les chiffres de l'inflation du mois de juin. Il a donc fallu corriger les attentes, les revoir et se demander si on n'avait pas raté un truc. C'est d'ailleurs sûrement à cause de ça que le marché s'est fait défoncer vendredi et que ce matin, ce lundi matin, ça n'est franchement pas mieux, les futurs étant déjà au fond du bac avec une baisse de 2% déjà affichée sur le futur Nasdaq. Il faut reconnaître que ça donne envie de retourner se coucher. Mais donc, que faut-il penser de l'avenir? D'ailleurs, y a-t-il même un avenir dans le monde déprimant de la finance sous hausse de taux et injection d'inflation? On ne va pas non plus dramatiser à l'excès, il faudra se souvenir que l'état psychologique dans lequel nous nous trouvons se rapproche de plus en plus de ce genre d'état où l'on se trouve en fin de correction quand plus personne n'y croit et que les investisseurs craquent les uns après les autres en se disant que cette fois c'est foutu et que plus jamais ils achèteront une action. Oh, nous ne sommes probablement pas encore tout au fond du trou, il va falloir encore faire des efforts, mais le psyché commence à craquer. Et puis cette semaine, nous aurons la Fed, et là, ça risque d'être drôle, hein, d'être drôle parce que vu ce que l'on sait, et vu ce que l'on entend en ce moment, ça ne sera pas simple d'analyser la réponse et les déclarations de la Banque Centrale Américaine. Nous allons donc revenir massivement et presque exclusivement sur le sujet de l'inflation puisque la Fed se réunira mardi et mercredi. Jérôme Powell annoncera la décision des taux mercredi soir et pour être franc, je ne voudrais pas être à sa place. Le patron de la Fed aura donc deux choix. En un, monter les taux de 0,5% et le marché aura peur que l'inflation devienne tellement hors de contrôle par manque d'agressivité de la part de la Fed. Et en deux, monter les taux de 0,75% et le marché aura peur que la Fed déclenche une récession par excès d'agressivité. Oui, parce qu'aujourd'hui, si l'on en croit les sondages, près d'un quart des économistes s'attendent à une hausse de 0,75% pour casser les reins de l'inflation. Pour autant que ça suffise. Et vu que demain, il y aura encore les chiffres du PPI qui est supposé être en amont du CPI, il manquerait plus qu'il soit fort aussi et le quart pourrait se transformer en trois quarts Autant vous dire que Powell va devoir réagir avec dextérité et trouver les bons mots. Qu'il monte les taux de 0,5 ou de 0,75. J'ai comme l'impression que les intervenants vont se montrer extrêmement susceptibles et très attentifs à ces mots. Pour faire simple, Powell aura le choix entre la peste et le choléra. Ça rappelle un peu les élections françaises d'ailleurs. Les futurs sont donc à la cave, déjà très tôt ce matin, les graphiques sont en train de ressembler à quelque chose qu'on n'aime pas du tout, et si l'on présuppose que le S&P 500 va clôturer là où il est actuellement, cela voudra dire que nous sommes entrés en bear market sur l'indice de référence américain. Nous sommes en train d'aller chercher les plus bas de la fin du mois de mai, instant béni par les dieux de la finance. Nous avions décrété qu'une pause dans la hausse des taux pourrait se profiler vers le mois de septembre, sauf que là c'est réglé. Vu les chiffres de l'inflation, on va devoir gentiment commencer à imaginer que l'on pourrait se retrouver rapidement en récession si la Fed pète les plombs et commence à monter les taux violemment, en tout cas plus violemment que prévu. Ce qui fait que l'on revient toujours au fait que si l'on part du principe que la récession doit être pressée dans le marché, il faudra commencer à se dire que le point de support du marché se trouvera quelque part entre 3000 points, ce qui représenterait les baisses extrêmes des derniers bear markets, et 3400 points, ce qui représente plus ou moins la moyenne mobile des 200 semaines, moyenne qui peine à être franchie en général, sauf en cas de crise majeure. Reste à déterminer à quel moment nous serons en crise majeure, ou peut-être que nous y sommes déjà. Actuellement, l'Asie n'a pas trop aimé la clôture de New York, elle n'a pas aimé non plus le fait que les chiffres de l'inflation nous montrent que ça ne s'arrête pas et que la Fed pourrait paniquer mercredi. Mais l'Asie n'aime pas non plus le fait qu'ils aient à nouveau trouvé une explosion de cas Covid à Pékin, que le 214e reconfinement semble inévitable et que la croissance du pays tout entier pourrait s'en ressentir. Encore. C'est donc le bain de sang en Asie et le Japon est en baisse de pratiquement 3%, tout comme Hong Kong. La Chine, comme à son habitude, limite la casse et ne recule que de 1,1%, mais ne joue pas non plus avec les mêmes règles que le reste du monde. Du côté de l'or, on est à 1866 et les gens ont l'air de se dire que c'est pas mal comme protection contre l'inflation, même si c'est du bout des lèvres. La seule bonne nouvelle, c'est que le pétrole baisse un peu et se retrouve à nouveau sous les 120 $, ce qui pourrait être une source de soulagement pour certains, étant donné que l'on se sentait plus à l'aise sous les 120. Bien qu'à ce prix-là, historiquement et empiriquement, nous sommes toujours dans la danger zone de récession. Par contre, ce qui est au plus mal aujourd'hui, c'est les cryptos. Le Bitcoin a finalement cédé et se retrouve déjà sur les plus bas du 13 mai. Le support ultime devrait se trouver vers les 25 400 et après, il n'y aura plus grand chose. Pour ce qui est du reste, l'Ether ne vaut plus que 1 300 $ et puis dans les bonnes nouvelles du secteur, on notera que Celsius, une des plus grosses plateformes de lending en crypto, a stoppé les transferts et les retraits pour cause de conditions extrêmes de marché. Ça va sûrement aider à trouver confiance et sérénité. Dans les nouvelles du jour, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais on notera que la crise en Ukraine fait la une sur CNBC, avec Zelensky qui prédit la famine pour toute la planète si la guerre continue et que le riz pourrait être le prochain truc qui va exploser. Pendant ce temps, tout le monde est en train de prendre ses paris pour le meeting de la Fed de demain et pour les chiffres du PPI. Il y a de plus en plus d'économistes qui parient sur une récession américaine en 2023 et les médias français ne parlent que des élections législatives qui n'intéressent même pas les Français à voir le taux de participation. Par contre, il y a peut-être quelque chose que l'on devrait commencer à observer, c'est l'immobilier américain. La semaine dernière, le nombre de nouvelles hypothèques s'est retrouvé au plus bas depuis 22 ans, ce qui veut dire même plus bas que pendant la crise des subprimes. Si l'on regarde la hausse des taux hypothécaires, on peut commencer à s'inquiéter d'une éventuelle crise immobilière, ce qui mettrait un peu de piment sur ce que nous vivons déjà. En janvier 2021, le taux hypothécaire à 30 ans était de 2,65% et le prix moyen des maisons était de 400 000 $. La semaine dernière, le taux à 30 ans était de 5,23 pour un prix moyen de 570 000 $. Et si l'on part du principe que l'acheteur met 20% d'apport de loyer, cela veut dire qu'en 18 mois, le loyer moyen de la dette est passé de 1 250 $ à 2 500, plus ou moins. En gros, ça a doublé. Pas sûr que ça soit un argument de vente. Les achats vont s'en ressentir, la construction aussi, le prix du bois s'est effondré et on a juste l'impression qu'une tempête parfaite est en train de se former et que l'on continue à boire des cocktails sur la plage. Allez, bon, j'arrête, je viens bearish. Voilà ce qu'on peut dire en ce début de semaine, ça n'est pas très marrant et ça ne promet pas beaucoup mieux dans les jours à venir. Beaucoup de secousses et beaucoup d'interprétations qui vont nous faire des 360 dans tous les sens. Je crois qu'il va falloir s'hydrater, boire beaucoup d'eau et espérer que la Fed communique avec douceur et parcimonie. En attendant, je vous souhaite un excellent lundi, je vous retrouve demain à la même heure, au même endroit et que la force soit avec vous.